Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Emery. Avec plusieurs camarades, on a préparé une émission radio qu'on a appelée CEF News 2.0, qu'on vous propose d'écouter tout de suite. Bonjour Yacine, bonjour William, bonjour Ismaël.
Ouais,
ça va tranquille. Tranquille et toi?
Tranquille. Merci d'être là. Il faut savoir qu'on est un groupe de jeunes du centre éducatif fermé Le Relais du Trièvre, près de Grenoble. On est âgés de 14 à 17 ans. Nous avons préparé cette émission dans le cadre d'un atelier radio avec News FM. Au sommaire de l'émission, on va commencer avec Yacine qui va nous parler de l'argent dans le foot. On enchaînera avec un petit débat entre nous sur le football business, débat animé par Ismaël. On poursuivra avec William qui nous présentera notre CEF. Et pour finir, l'interview de Gérard Brion, délégué du Défenseur des Droits. Yacine, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la relation entre le foot et l'argent ?
Alors, tout le monde s'intéresse au foot, mais presque personne sait d'où vient tout cet argent. Première option, les droits TV. C'est l'argent qu'une chaîne de télévision paye pour diffuser les matchs. Un club qui participe à la Ligue des Champions recevra plus d'argent versé par Canal+, ou BLN Sport par exemple. Joueurs à vendre. Le club vendeur peut gagner beaucoup d'argent sur certains joueurs, comme avec l'équipe de Manchester, qui a obtenu 94 millions d'euros pour Ronaldo en 2017. Et lorsqu'un club va mal économiquement, ils sont obligés de vendre des joueurs. Les primes. Plus le résultat d'un club est bon, plus ils gagnent d'argent. À chaque trophée remporté par un club, des sommes d'argent sont renversées au club suite à leurs résultats dans leur championnat respectif. Les sponsors. Les sponsors sont des annonceurs qui associent leur marque et leurs images à celles d'un partenaire, club sportif, etc. En effet, tous les clubs professionnels possèdent de très nombreux sponsors qui leur permettent ensuite d'investir de l'argent dans le fonctionnement du club. Pour le cas du stade Vélodrome, le sponsor est Orange. Mais cela ne fonctionne pas tellement sur cet exemple car ils n'ont pas changé le nom du stade. Quand à l'Olympique Lyonnais, ils ont appelé leur stade Groupama Stadium car leur sponsor est Groupama. L'équipementier. Un équipementier sportif est une entreprise qui fabrique des articles de sport comme des chaussures, des vêtements et des accessoires divers. La marque crée des alliances avec le club de foot et paye le club pour que les footballeurs portent leur affaire et qu'ils fassent ainsi de la publicité. Cela attire plus de clients et la marque se fait connaître un peu plus. Il existe quelques variantes. Il y a par exemple l'existence des sociaux. Le FC Barcelone est un club sportif qui a comme principale particularité que les supporters, les sociaux en soient les propriétaires. Parmi leurs droits et devoirs, ils peuvent décider de qui dirige le club lors d'élections. Voilà, j'espère que vous savez un peu plus d'où vient l'argent dans le foot.
Merci Yacine, on fait une pause musicale et on se retrouve pour un débat sur le foot business.
Place à la tempête, ça veut s'enrichir. Premier plan, je volais des compètes. On vient d'arriver, y'a que des pétasses un peu pompettes. Des sandales et beau, j'ai même pas encore pété mon pet. AZZ, il sort le compète. Si j'avais su, j'aurais pas montré ma tête. Et y'a tout qui passe, une fois que t'as bien durci tes couilles. J'te déballe, on se fera une soirée si t'es cool. Tu repenses à tous arrivants. Comment faire mal à tes rivaux? Dans la boîte auto, j'ai peur de regretter vu que j'ai que la auto.
Ça vend du karma, ça rêve des Bahamas. Ça reste tout doux devant les beaux yeux de ta maman. Ça vend du karma, ça rêve des Bahamas. Ça reste tout doux devant les beaux yeux de ta maman. Celle-là c'est pour mes hardies, pas les kehbans. Hamdoulay on a tout mais on se perd pas. Celle-là c'est pour mes renois, pas les kehbans. Pense à toi le soir, j'ai envie de te faire dans la nuit. J'suis peut-être parano, mais j'suis meilleur sans amis. J'ai coffré les billets, pas loin du canon scié. Tous des fillettes méritent de se faire fusiller. Cocaïne,
escale Punta Cana. 66, t'atterris au Nevada. Bizarre, on fait la fissa. Je peux pas me la mettre malgré ton beau visage.
Elle veut l'argent et la zone. Désolé, t'es mal tombé. J'te peinava après. Énervé jusqu'au jour de la paix.
Ça vend du Kama, ça rêve des Bahamas. Ça reste tout doux devant les beaux yeux d'un maman. Ça vend du Kama, ça rêve des Bahamas. Ça reste tout doux devant les beaux yeux d'un maman. Cela c'est pour les harbis, pas les perbans. Hamdoulé on a tout, mais on se perd pas. Cela c'est pour mes renois, pas les perbans. Hamdoulé on a tout, mais on se perd pas.
Retour sur CEF News 2.0. Tout de suite, notre débat sur le foot business animé par Ismaël.
Oui, merci. Effectivement, on va parler ensemble du foot business. Et on accueille Greg de News FM qui veut participer au débat.
Yes, salut.
On va parler un peu des salaires. Pensez-vous que c'est normal que les joueurs de football gagnent autant d'argent?
Moi, je trouve que c'est un peu trop quand même.
Ouais, ils touchent un peu trop quand même.
Vous trouvez que c'est un peu trop?
Parce que des milieux.
Ah, abusez pas. Ils sont payés pour ça alors.
Ouais, mais ils courent juste derrière un ballon, ils gagnent des millions.
Ouais.
Ah, t'as le même talent que toi alors?
Ouais.
Oh, ça parle en millions là.
Ouais, ben. Ça parle en millions, mais c'est pourquoi ils touchent autant en fait? Ça représente quoi dans les autres, tu vois? Eux, c'est leur salaire, mais leur salaire, ça veut dire qu'ils rapportent aussi des sous au club, aux marques et tout, non? T'as parlé des sponsors, des machins.
Ouais, bah c'est leur marque qui leur fait gagner. C'est les plus petits fonds.
Ouais, mais des millions pour courir derrière un ballon.
Ah,
mais
ça y est. Ah, bah t'as le même talent que toi pour jouer.
Ah, c'est juste courir derrière un ballon.
Ah, t'aurais le talentueux, tu serais content de gagner des millions.
Ouais. Ouais.
Là, mais il y a l'argent que ça génère derrière, en fait. Y a leur salaire, il est proportionnel, je pense, tu vois, un peu. S'ils peuvent payer, j'en sais rien. Je sais pas, t'as des chiffres, je crois, Isma, non?
Hein?
T'as des chiffres d'un joueur, combien il touche par an, par exemple, par mois?
Par mois?
En salaire, là.
Bah, par exemple, il y a Messi. Il touche 126 millions d'euros.
Voilà, 126 millions d'euros il touche. Tu crois vraiment que si le club il touche pas 10 fois plus, il pourrait lui payer?
Bah non.
Tu vois?
Ouais,
je suis sûr que c'est proportionnel. C'est quoi, c'est par an? Ouais, bah même par an quoi.
Et aussi, eux, ils doivent coffrer des sous, ils prennent pas leur retraite. Hein.
Ah ouais, c'est vrai ça.
Et ouais.
Oh, ouais. Ah, il a couché tout le monde, il n'y a personne par
an. Ouais, mais là, les sous qu'ils m'ont coffré quand même pour la retraite.
Là, non, mais moi, je pense que c'est trop de sous. Là, 126 millions en une année.
Bah, c'est les ancêtres, ils vont être riches.
Je fais même pas un quart de ça.
Dis-toi, nous, on est là en galère, on gagne même pas 2000 euros par mois. Eux, ils sont là, ils courent derrière un ballon, ils gagnent des 126 millions.
Non, mais nous, c'est la hesse un peu, non?
Bah, je sais pas, après, chacun vit comme il vit. Hein.
126 millions par an, moi, déjà. Même pour 10 ans, je les prends, j'ai pas de soucis. Non, bah, c'est pas grave.
Ah, mais leur match, il y a tous les spectateurs qui le regardent. Hein. C'est eux qui payent aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils sont payés ce nombre-là.
Pour regarder à la télé?
Ah bah, les spectateurs ils préfèrent regarder en réalité.
Et toi tu regardes où?
Moi je regarde à la télé, je m'en fous. Ah, voilà. Tu crois, je vais donner,
parce que t'as pas les moyens de regarder.
Non, tu crois, je vais leur donner des sous.
Bah, c'est tu ça. Regardes la télé, tu leur donnes des sous?
Non.
Si, parce que la TV ils les payent pour regarder.
Bah, moi je regarde la télé. Les gens ils payent des 300 euros, 400 euros la place.
Et tu crois la télé ils payent combien pour diffuser leur match?
Ah, mais après c'est la télé.
Ah, mais c'est toi tu regardes.
Ah, moi, je regarde. Moi je paye rien, moi. Je regarde juste la télé.
Bah, tu payes l'électricité?
L'abonnement Bein, tu payes l'abonnement RMC Sport, tu payes la.
Ah, mais c'est largement chaînes. Moins cher que la place de.
Bref, ouais. Bref.
Ouais, mais tu leur donnes quand même des sous.
Bref.
Moins que les petits clients qui vont devant le stade. Et arrête de créer, ça va rien changer, toi.
Bref.
Voilà.
Pour vous aider, voici un petit rappel de quelques joueurs. Messi, du coup, 126 millions d'euros. Ronaldo, 94 millions. Neymar, 81,5 millions. Antoine Griezmann, 26 millions. Et Kylian Mbappé 18 200 000 euros.
Il n'y en a pas un en finale de Ligue des Champions.
Ces salaires sont-ils mérités à votre avis?
Non.
Non. Tu penses pas?
Non.
Moi je pense que ouais.
Et toi Yacine, toi tu penses que c'est mérité?
Ouais.
Et pourquoi?
C'est ça, c'est leur talent. Tout le monde a un talent dans la vie, c'est leur talent et c'est mérité leur salaire.
Mais qu'est-ce que c'est un talent de jouer au foot?
Je crois bien que
tu t'entraînes, c'est bon, tu arrives au bout d'un moment.
Ouais, bah entraîne-toi jour et nuit et va jouer avec le main.
Mais j'ai pas envie de m'entraîner.
Ah voilà, après.
Bah, pourquoi tu le fais pas?
Parce que moi j'ai pas le talent.
Bah, tu pourrais t'entraîner jour et nuit.
Ouais, bah ça va rien changer. Eux ils sont nés, ils aiment bien le foot, ils peuvent faire leur avenir dans le foot.
T'aimes pas le foot?
Si, mais je veux pas faire mon avenir dans le foot. J'ai pas le talent pour faire footballeur.
Mais bref. Ça s'apprend.
Un talent, ça s'apprend.
Bah, ça s'apprend à jouer au foot.
Ouais, ça s'apprend à jouer au foot, mais va avoir le talent pour jouer contre des professionnels.
Bah, tu peux devenir professionnel.
Ouais, bah, Inch'Allah un jour.
Inch'Allah, Yacine. Bref, t'arrives des spots publicitaires. Est-ce que quand vous voyez Antoine Griezmann se laver les cheveux avec du Head & Shoulders, ça vous donne envie d'acheter ce shampoing?
Non, voilà, je changerai ma vie.
Oui, moi aussi. Et toi, Emery?
Moi, c'est pareil.
Et toi, William?
Vas-y, il a pris une frappe de se doucher avec.
Et vous, Greg?
Et vous vois-moi pas déjà, je me sens pas bien.
T'es battu.
Tu mets, voilà, c'est mieux. Non, ça me donne pas envie d'acheter ce shampoing du tout. Ça me donne envie de faire autre chose avec Griezmann, lui couper ses vaches et lui dire arrête tes conneries et point quoi.
Ok, ok. Autre chose à savoir aussi, c'est qu'en 2018, si la France se qualifiait, l'équipe gagnait 280 000 euros. Que pensez-vous de cette somme?
Je trouve que ça fait pas beaucoup, moi, au milieu de toutes les autres sommes.
Ouais,
c'est vrai que c'est pas beaucoup.
Une petite prime, quoi. Enfin, pour eux, dans leur monde, ça fait, doit pas faire beaucoup, je crois.
Mais pourtant, ils sont qualifiés.
Ah, c'est combien? 280 millions?
280 000 euros.
280 000 euros.
C'est quoi? C'est la fédération qui a touché ça? C'est l'équipe de France
C'est l'équipe de France, si elle était qualifiée.
Ah, c'est rare.
En 2018.
Les autres équipes, ils sont payés plus qu'un ils gagnent. Et pourquoi la France, elle est payée 280 000?
Quelle est la question?
Ce sera l'objet d'un autre débat dans une, ouais, dans une autre émission.
Tu réponds plus, là.
Les sponsors. FC Barcelone, 212 millions d'euros. Manchester United, 173 millions. Real Madrid, 172 millions. Chelsea, 116 millions. Bayern Munich, 104 millions. Et Paris Saint-Germain, 86 millions. Trouvez-vous normal que les sponsors payent autant les clubs de foot pour que les logos apparaissent sur les maillots des joueurs?
Bah ouais, puis à la fin, c'est eux qui se font des soins.
Ouais.
C'est leur pub. C'est eux, ils habillent les joueurs.
Et derrière l'exposition des logos des sponsors, ils se font du chiffre avec les clients.
Peut-être qu'ils mettent des sous, mais ils prennent plus qu'ils mettent.
Voilà, ouais. Exactement, Yacine, je suis d'accord avec toi.
Ça.
Et toi, Emery, que penses-tu?
Moi, personnellement, je n'ai rien à dire.
Ok. Les budgets des clubs. Manchester United, 676,3 millions d'euros. Real de Madrid, 174,6 millions. FC Barcelone, 648,3 millions.
Oh
Bayern, 587,8 millions d'euros.
Ça rigole pas. Hein.
C'est combien de temps, ça?
Des grandes sommes.
C'est le budget du club à l'année, ça, non?
Pour le club.
Ça, ouais, c'est le budget du club à l'année, ouais.
Ah ouais.
Et ouais.
Son argent, hein.
Oh. Donc là, après, ça parle... le club aussi doit payer les joueurs. Hein.
Mmh. Ah bah.
À la fin, ça parle en milliards, du coup.
Bah ouais, là, on n'est pas loin du milliard, là. Manchester, combien t'as dit déjà?
Manchester, j'ai dit 676,3 millions d'euros.
Oh là 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 là. C'est énorme.
C'est celui qui est payé le plus cher? Enfin, genre,
c'est ouais. Le plus gros budget.
Ouais.
Et la Turquie, elle compte pas?
Et l'Algérie?
C'est t'inquiète, elle va arriver.
Ouais, nous aussi. Bref, les budgets des clubs français. Le PSG, 500 000. Lyon, 285 000. Et Marseille, 150 000.
Millions, tu veux dire?
Ouais, c'est peut-être une erreur de mal compréhension ou de mal écrit.
Ouais, c'est vrai,
s'il paye Mbappé 80.
Donc c'est des fautes, c'est des fautes qui ont été faites
inattendues
dans l'écrit.
Ouais.
Est-ce que jouer au foot est un talent inné ou faut-il travailler pour y arriver?
Bah, faut travailler. Le talent, ouais, le talent, c'est que la première marche, comme on dit, tu vois. Il y avait je sais plus quel chanteur qui disait le sans travail, le talent, c'est juste une mauvaise manie.
Ah ouais, bah peut-être.
Ouais, je trouve que après c'est le travail. Le talent, c'est t'as une facilité au début.
Le travail paye.
Mais après, c'est le taf, quoi. Le talent, c'est de se jeter à corps perdu à travailler un domaine. C'est ça, après, le talent. C'est de travailler, et jusqu'à devenir le meilleur, quoi.
Voilà, effectivement, il faut s'améliorer tout doucement, mais sûrement, carrément. Avec le temps.
carrément. Donc, inné, oui et non, je sais pas, t'as des facilités, quoi, au début pour un truc, quoi. Après, c'est le travail.
On va parler un peu des dopages. Pensez-vous que les joueurs de haut niveau peuvent enchaîner les matchs de grande intensité sans se doper?
Moi, je pense que non. Déjà, un match, ça les fatigue. La distance du terrain, ça les fatigue. Et je pense qu'ils se dopent bien pour faire plusieurs matchs.
Ouais, je pense aussi qu'ils doivent prendre un petit peu de...
Un peu de cocaïne par-ci, par-là, et tout y va bien.
Je sais pas, il y a des produits interdits, des produits autorisés, non? C'est en ça où il y a du dopage, ou je sais pas.
Je sais pas. Non. Mais je pense que c'est obligé.
Ouais, ça change rien à leur vie, touche des millions pour acheter 2-3 grammes à 80 euros. Ça change rien à leur vie. Hein.
Ouais, mais s'ils se font prendre.
Ouais, il y a des contrôles quand même.
Ouais, mais après, la cocaïne finit dans son nez.
Mais après, il finit dans son sang. Et t'as vu, quand il y a le contrôle, il se
fait tuer. On s'en fout. Nous sommes pas là pour parler de substances illicites. Est-ce que le football actuel est le même qu'à l'époque, les années 80 et 90, Maradona, Pelé?
Moi, je pense que non, puis à l'ancienne, ils se dopent pas, ils jouent avec leur connaissance, leur talent et leur endurance.
Très bonne... comment dirais-je?
Observation.
Très bonne observation, Yacine, de ta part.
Merci,
t'as... Je suis d'accord avec toi.
Pour moi, je dis que c'est là, cette époque, ces joueurs, ils ont marqué l'histoire du foot.
Tu penses?
Ouais, je suis sûr même.
Eh ben, t'as raison. Pour moi, je suis d'accord aussi avec toi. Je pense que Maradona a marqué l'histoire du football. Et le talent footballistique de ce joueur, très impressionnant.
Après, les performances, elles ont augmenté quand même les préparations physiques, les machins et tout. Je sais pas si tu mets un Maradona aujourd'hui sur un terrain contre un Messi. Je pense qu'il doit y avoir quand même, tu vois, les entraînements, ils sont devenus plus élaborés, plus durs, le niveau physique, il a augmenté quand même aussi, tu vois.
Ouais, mais par exemple, Maradona, il joue contre Ronaldo, il y a une différence d'âge aussi.
Non, mais si, ouais, mais là, si tu les mets au même âge, juste, ouais, c'est du monde imaginaire, mais tu vois, tu les mets avec leur meilleur niveau de l'époque chacun. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a une différence de...
Ouais, il doit avoir une différence de
physique. Après, c'est, bien sûr, c'est des joueurs, ils ont marqué l'histoire et tout, tu vois, mais si tu les fais, ouais... Je pense qu'il y a beaucoup plus maintenant d'encadrement, d'entraînement physique, de préparation. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'à l'époque, quoi. Donc, je pense qu'ils doivent être beaucoup plus... Puis tu vois, tout évolue, quoi. Tu vois, même dans la technique des joueurs et tout, tu vois. La vitesse, la musculation, la technique, les stratégies de jeu et tout, je sais pas. Après, tu peux pas enlever le talent de Maradona, des Pelé et tout quand même.
Ouais, bah le talent, ça reste du talent.
Bah ouais, leur époque et tout. Des tueurs, quoi.
Des tueurs, exactement.
Ouais.
Merci à tous d'avoir participé au débat. On fait une deuxième pause musicale et on revient pour la suite de notre émission.
Un 3-5, nous on est là, on veut même pas ton 06. On barre dans Yamaha, casquette VR46. Dis pas que tu me connais pas, depuis 20 ans j'ai pas grossi. Mon poteau t'es pas aussi, c'est juste le vario mal aussi. On fait pas de danse, on fait twerker les danseuses. Je connais même des petites françaises qui te plantent la moelle osseuse. Au fait le sang j't'ai pas dit, y'a des sauvages ou rage dedans. Trop d'éther ça trempe dedans, j'ai vu des petits haggards des grands. Je m'en fous de ceux qui disent, les jaloux j'ai fait le con. Des péchés j'ai fait le con, j'assume tout même quand j'ai ton frangin. Faut arrêter les conneries, tu te montres trop devant les gens. Tu te crois trop intelligent, que tu racontes des légendes. J'vis la rue, je ne la comprends pas. J'aime ta femme, tu ne la trompes pas. Sors pas en boîte, tu ne consommes pas. Si je t'ai pris, ne me pompons pas. Même en grosse caisse, je sais pas où aller. Toi tu dors, tu fais que râler. T'as des love, love, elle te trouve pas aller. On est mauve, je veux pas trop parler. À dire qu'avant j'étais sur écoute. J'ai la justice sur les côtes, tape mon nom sur YouTube, écoute. C'est hors ligne, j'vais les baffer. J'reste propre dans de sales affaires. On sait ce que t'as fait, que t'as pas fait. On est des terres, c'est la pointe. Tu fais le gros, tu portes plainte. Viens pas nous faire à la feinte. J'ai même plus qui fait la pute. Mon bébé, si t'es en rue, te parle franco, va droit au but. Pétard, j'échappe. Les petits anges, j'échappe. Les murs ont des oreilles quand ça part sur maléchant. Ouais, trop d'aimes, s'ils font les shows. Rien qui sait que tu chantes. Au check, ça fume la frappe, couleur sourire à des champs. Laisse les faire les méchants. Trou du cul à les champs. Chez moi, y'a des carottes et des armoires qui poussent dans les champs. Et on les fend, doigt levé. Faut que la juge, il faut délover. C'est un bras gauche, veux vos bras levés. C'est un 3-5, on vient innover. La pointe à Icon, ouais c'est nous derrière la belle. Ils veulent pas nous faire la passe, ils chaînent F qu'on prenne la balle. J'arrive à va, ça fait pas va.
tenu par un bal. Mes deux voix ils sont tout pas papal. Poète costaud à la popo pay. Ça t'insulte mort à la popo boy. Tu veux ta fée que ça pépé paye. La rue en pote dans ta popo ball. On voit la pépé paye. Y'a quand Dieu qu'on a peu peu peur. Les petits s'emballent avec tes rappels pépé. Veulent tous le stunt et la peu peu peu.
A dire qu'à voir j'te sur écoute. J'ai la justice sur les côtes. Tape mon nom sur YouTube écoute.
C'est hors ligne, fais les baffés. J'reste propre dans de sales affaires. On sait ce que t'as fait que t'as pas fait.
On vient de t'éteindre, c'est la pointe. Tu fais le gros, tu portes plainte. Viens pas nous faire à la feinte.
J'ai même plus qui fait la pute. Mon bébé, si t'es en rute, parle franco, va droit au but.
Dernière partie de l'émission CEF News 2.0. Je laisse la parole à William pour nous parler du CEF.
Merci Emery. Rebonjour, je vais vous parler du CEF. Un CEF, c'est un centre éducatif fermé. Dans le système juridique pénal, dans l'ordre, il y a foyer, CER, centre éducatif renforcé, CEF, centre éducatif fermé et prison. Les CEF accueillent des mineurs délinquants multirécidivistes pour une période de 6 mois, minimum renouvelable une fois. La justice leur donne une dernière chance de se réinsérer dans le système. Au cours de ces 6 mois, il est possible de faire des activités sportives, scolaires, techniques et d'autres. Après 3 mois de présence, des stages découvertes sont proposés aux jeunes pour découvrir les métiers du bâtiment, l'industrie, du commerce et d'autres. Pendant cette période, des week-ends en famille sont permis aux jeunes si leur comportement est correct.
Dis-moi William, combien y a-t-il de jeunes en ce moment au CEF ?
En ce moment, il y a actuellement 9 jeunes au CEF.
Comment se compose l'équipe encadrante du CEF ?
Il y a 13 éducateurs, 2 maîtresses de maison, une infirmière, 2 chefs de service, un directeur, 2 psychologues et un technicien d'entretien.
Comment se passe la vie au CEF ?
La vie au CEF commence par le réveil à 7h30. Au deuxième passage, à 7h45, pour descendre à 8h, pour le petit déjeuner, les activités commencent après la première cigarette. À 11h45, arrêt des activités, repas de midi avec un jeune de service pour dresser la table et débarrasser. Les activités reprennent à 13h45 jusqu'au goûter. À 16h30, fin des activités. Nous restons au calme jusqu'à 18h où nous montons en chambre pour 1h. Douche et détente. 19h, nous descendons pour le dîner et nous restons devant la télé où nous jouons aux cartes ou un autre jeu.
Merci William. Pour nous qui vivons dans un centre éducatif fermé, la question de la liberté et des droits est importante. Gérard Brion est l'un des délégués du Défenseur des droits en Isère. Nous l'avons rencontré et nous lui avons posé des questions. On écoute.
Qu'est-ce qu'un défenseur des droits ?
C'est une institution indépendante qui a été créée en 2011. Et donc, le défenseur des droits en titre, il s'appelle Jacques Toubon. Vous en avez peut-être entendu parler, il a été ministre plusieurs fois. Et c'est lui qui est responsable de cette institution. Et quand on dit qu'elle est indépendante, c'est-à-dire que personne ne peut lui donner des ordres, personne ne peut lui demander d'intervenir dans tel ou tel domaine. Il y est complètement libre de ce qu'il a à dire et de ce qu'il a à faire. Et moi, je suis délégué de ce monsieur, je suis délégué du défenseur des droits. Et donc, c'est pareil, je peux intervenir dans différents domaines.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
Eh bien, c'est pas un métier, puisque je suis bénévole, mais bon, ça fait rien. On va dire qu'il faut des compétences comme dans un métier. Ça fait 11 ans maintenant.
Aimez-vous votre travail ?
Ah oui, j'aime beaucoup ça, oui, j'y passe beaucoup de temps. Et j'ai de temps en temps le sentiment d'être un petit peu utile. Voilà, pas toujours, parce que c'est quand même très compliqué et c'est parfois difficile de faire bouger les services publics ou les administrations. Mais j'essaye.
Est-ce que vous travaillez à côté ?
Ah non, je suis bénévole et je suis à la retraite. Donc en fait, je passe beaucoup de mon temps à m'occuper de la question des droits dans différents domaines.
Pourquoi avez-vous voulu ces fonctions-là ?
Alors, ça date déjà d'il y a plus de 10 ans maintenant. Moi, je travaillais à la PAS, qui est une association qui gère des éducateurs qui travaillent dans la rue. Et donc, je connaissais beaucoup de monde au conseil général. Et une personne, une inspectrice, m'a sollicité pour que je devienne délégué de la défenseur des enfants à l'époque, pour défendre les droits des enfants. Et je vous rappelle donc que la question des droits des enfants, c'est de 0 à 18 ans. Donc j'ai été délégué pendant quelques années de la défenseur des enfants, et ensuite on m'a sollicité pour être délégué du défenseur des droits. Donc j'ai répondu oui, et là les droits, c'est tous les droits, le respect des citoyens dans leurs droits vis-à-vis des administrations, des services publics, la non-discrimination et la question des bavures policières qui font partie de nos missions. Voilà, donc j'ai accepté parce que ça m'intéressait de continuer à m'occuper de ces questions tout en étant à la retraite et en utilisant les compétences que j'avais acquises toute ma carrière.
Avez-vous déjà été discriminé ?
J'ai jamais eu ce sentiment-là. Alors peut-être que je l'ai été, mais je m'en suis peut-être pas rendu compte. Mais non, on peut pas dire ça, non. Mais par contre, les discriminations existent et elles sont assez nombreuses.
Est-ce qu'on peut changer de conseiller si on se sent pas en confiance avec celui qu'on a ?
Ah oui, tout à fait. Dans l'Isère, on est 10 délégués, donc on peut tout à fait changer de délégué si ça marche pas avec un. Et en plus, on n'a pas tous les mêmes compétences. Moi, je suis plutôt sur des compétences de droit des enfants, vous l'avez compris, aussi sur les discriminations. Et j'ai des collègues qui sont plus compétents sur la question du droit des étrangers, des cartes de séjour, etc. Et donc, quand je sais plus faire, je conseille aux personnes qui me contactent d'aller voir un autre délégué, mais eux-mêmes peuvent prendre la décision de changer.
Est-ce que vous avez des droits sur nos placements en CEF ?
Non, je crois pas que... Je crois pas. Par contre, vous avez des droits. Et là aussi, si jamais vous estimez que vos droits sont pas respectés, vous pouvez tout à fait faire appel au délégué du défenseur des droits aussi.
Vous avez des exemples. Parlez
votre numéro très rapidement, monsieur.
J'ai pas d'exemple dans un CEF ou dans un CER, mais ça m'est arrivé d'être contacté par des familles qui avaient des enfants placés en maison d'enfants. Et qui estimaient que c'était pas juste. Donc, j'ai vu avec eux et puis avec les services de placement pour essayer d'améliorer le dialogue et de éventuellement faire que le placement dure moins longtemps. Mais c'est compliqué parce que là, derrière, il y a une décision de justice, vous le savez, et que moi, je ne peux pas agir contre les décisions de justice. Ça, c'est pas possible. Par contre, je peux conseiller pour une démarche, pour essayer d'améliorer une situation.
Quelle est la différence entre vous et un avocat ?
Ah ben, il y en a beaucoup. Moi, déjà, on ne me paye pas, alors que les avocats, on les paye beaucoup. Et ensuite, moi, je défends le droit des personnes avec une démarche de médiation, c'est-à-dire d'essayer de faire que dans une rencontre avec un service public, je pense à la CAF, par exemple, Caisse d'allocation familiale, où je suis souvent sollicité, essayer de trouver une solution dans le dialogue. C'est tout à fait différent de l'avocat qui peut faire ça aussi, mais qui de toute façon, lui, va aller plaider en justice pour essayer de faire condamner ceux qui ne respectent pas le droit ou qui ont bafoué ou qui ont discriminé. Donc c'est un peu différent. Je ne peux pas être l'avocat de quelqu'un, je ne peux être que quelqu'un qui accompagne pour essayer de résoudre une situation difficile ou conflictuelle, mais sans qu'il y ait des questions d'argent au milieu ou de justice.
Est-ce que vous vous ennuyez pendant votre métier ?
Ben, je m'ennuie jamais, non. Vous imaginez, avec tout ce que je vois comme choses compliquées, des fois j'ai la tête qui va exploser tellement c'est compliqué.
Est-ce que vous êtes soumis à un secret professionnel ?
Absolument. Je signe quand j'ai accepté de prendre ce poste. On renouvelle toutes les années notre engagement et ça peut être remis en cause si on n'a pas respecté les règles et entre autres le secret professionnel. Je suis soumis au secret professionnel de manière très très sérieuse et c'est important pour que les gens puissent nous faire confiance. Et ce qu'ils me racontent des fois, des histoires de vie très personnelles, très intimes, et c'est normal que j'en garde le secret.
Combien de fois ça vous appelle au téléphone la journée ?
Ah, 4 à 5 fois par jour. Ça peut paraître pas beaucoup, mais si on accumule sur la semaine, ça fait une vingtaine de situations pour lesquels il faut que j'intervienne et que je réponde aux personnes. Parfois, c'est très simple. Toutes les situations ne sont pas identiques. Il y en a des compliquées et puis il y en a des plus simples.
Est-ce qu'il y a des cas où le défenseur des droits ne peut rien faire pour aider ?
Absolument, oui. Alors, il y a des cas où on n'arrive pas à faire avancer les choses. En ce moment, j'ai plusieurs situations de gens qui ont été... dont les droits du RSA ne sont pas respectés parce que ils sont soupçonnés d'avoir fait un faux, même si c'est pas vrai. Donc là, j'interviens auprès du conseil départemental, mais pour l'instant, j'ai obtenu aucun résultat. Donc là, on est devant une situation où en fait, l'administration ne répond pas aux défenseurs des droits, alors que normalement, ils ont obligation de répondre. Donc là, j'y arrive pas. Puis il y a d'autres situations où en fait, tout simplement, on dit aux gens, ce que vous me demandez, je ne peux pas intervenir. Par exemple, je disais tout à l'heure, une décision de justice, on ne peut pas intervenir sur une décision de justice. Donc je suis obligé de dire aux gens, je suis désolé, mais là, moi, je ne peux rien faire.
Est-ce que les gens, ils le prennent mal, ça ?
Eh bien non, justement. Jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai pas pu résoudre une situation... J'ai vu les gens pour leur expliquer, et à chaque fois, 100%, ils m'ont dit, bah écoutez, tant pis, c'est dommage, on aurait aimé que ce soit résolu, parce que ça nous embête, mais vous avez pris le temps de nous écouter, en fin de compte, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et c'est intéressant d'entendre ça, parce que ça veut dire que les gens ont besoin de dialoguer avec quelqu'un qui prend le temps d'écouter leurs difficultés, même s'il ne peut pas résoudre ça.
Que pensez-vous des événements qui sont en train de se passer, les gilets jaunes et tout ça ?
Les gilets jaunes et tout ça.
Ouais.
Ah, moi, j'étais plus sur la question de Mistral, puisque j'y
ouais, c'est moi qui ça arrive, doucement, mais sûrement.
Ça arrive, d'accord. Je vous en parlerai, puisque j'y suis allé plusieurs fois depuis qu'il y a eu cette mort de ces deux jeunes. Les gilets jaunes, qu'est-ce que j'en pense ? C'est simplement, je crois, que c'est l'expression d'un ras-le-bol et de la misère qui s'est installée dans pas mal de familles. Et donc, ce ras-le-bol s'est exprimé sous cette forme, parfois un peu excessive, mais je pense qu'il faut la comprendre. D'ailleurs, le défenseur des droits est intervenu sur cette question pour demander à ce qu'ils arrêtent au niveau de la police d'utiliser des flashballs.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il se passe pour les deux jeunes ? Est-ce que vous servez à quelque chose pour ça ?
Le 2 mars 2019, la mort de deux jeunes du quartier grenoblois de Mistral, après une course-poursuite avec la police, avait provoqué plusieurs nuits de troubles.
Ah, c'est compliqué ça. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait là-dessus. Quand j'ai entendu qu'il se passait cet événement, je suis allé à Mistral, puisque je connais des gens à Mistral. J'ai rencontré des jeunes qui étaient dans la rue. J'ai discuté un peu. Et puis ensuite, j'ai reçu un coup de téléphone d'une jeune fille dont je m'occupe, qui est en service civique avec moi, puisque j'accompagne des jeunes en service civique. Et elle intervient dans les collèges pour parler des droits des enfants en 6e et en 5e. Et cette jeune fille habite Mistral, et elle s'était fait gazer. Et comme elle est asthmatique, elle s'est retrouvée en difficulté grave. Elle s'est évanouie, et la police a refusé de l'évacuer du quartier. Et donc, elle m'a appelé pour ça. Donc ce que je vais faire dans ce domaine, je vais l'aider à porter plainte pour non-assistance à personne en danger, je vais l'accompagner, puisque ses droits n'ont pas été respectés. Donc voilà un exemple d'une intervention que je peux faire.
Merci beaucoup, monsieur Gérard.
Eh bien, c'était bien vos questions. Hein.
Voilà. Notre émission CEF News 2.0 est terminée. Merci à tous ceux qui l'ont préparée, Yacine, Ismaël, William, les éducateurs qui nous ont accompagnés, Greg et Christophe de News FM et moi-même Emery. À bientôt peut-être sur les ondes. Au revoir à tous.
Et merci.
Grenoble Street, village de la zone.
Village de Boston devant.
Village de la zone.
Voilà, village de Boston devant.